Un excellent sabbat à chacun et chacune, et à ceux qui vont entendre le message plus tard aussi. Le titre de mon sermon aujourd'hui, caractéristiques de la vraie Église. Caractéristiques de la vraie Église. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose de base, mais qui est vraiment important qu'on possède bien et qu'on soit convaincu. Le message que je vais vous donner, ça s'adresse aux anciens comme aux nouvelles personnes. Aux anciens, ceux qui sont là depuis plus longtemps, pour vraiment fortifier vos convictions, parce qu'on a besoin d'être solidifié à cause des temps qui viennent aussi, qu'on soit certain de ce qu'on croit et qu'on aille de l'avant, quelles que soient les circonstances. Alors, même si on est dans l'Église depuis très longtemps, la Bible nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire qu'il y a toujours des risques tant qu'on n'est pas rendu au but. Pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit, que ce soit des membres, que ce soit des ministres, que ce soit des évangélistes. C'est la même chose. Alors, il faut être vraiment convaincu. Comme M. Meredith dit, il faut savoir qu'on sait ce qu'on sait et en être convaincu dans ce sens-là. Et pour les nouvelles personnes, ça va vous donner des éléments de preuve. Des éléments pour être davantage convaincu que vous avez trouvé l'Église qui est l'Église de Dieu. On sait que le Christ est venu, il a fondé son Église. Il n'est pas venu pour fonder ses Églises. Donc, on doit être capable d'identifier quelle est la vraie Église de Dieu. Et c'est pour ça que je vous donne aujourd'hui quelques-unes des caractéristiques qui permettent d'identifier la vraie Église de Dieu. Alors, quand quelqu'un est appelé, il doit faire la preuve que c'est vraiment l'Église de Dieu. Personne ne peut le convaincre. Moi, je n'ai pas à le convaincre. Et les autres n'ont pas à le convaincre non plus. La personne doit prouver par elle-même. Mais elle doit avoir des éléments pour ça. Et Dieu ne nous a pas laissés dans le vague. Dans sa parole, il y a plein d'éléments qu'on peut retrouver et qui nous aident à vraiment être certains que, voilà, ça, je sais que c'est l'Église de Dieu. Même si elle n'est pas parfaite, et même si les gens qui la composent ne sont pas parfaits, qu'ils travaillent pour s'améliorer, c'est l'Église de Dieu si ça remplit l'ensemble des caractéristiques qui doivent identifier l'Église de Dieu. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Ce n'est pas toutes les caractéristiques, mais je vais vous en donner quelques-unes qui sont importantes et qui peuvent vous aider. Ou pour solidifier la foi que vous avez déjà, ce qu'on a tous besoin de faire, ou pour prouver les choses si vous êtes nouveau dans l'Église, pour aller de l'avant et devenir de plus en plus convaincu que Dieu vous a amené à son Église et que vous ayez le cœur léger pour continuer. Première chose, c'est que l'Église de Dieu, ou l'Église du Dieu vivant, sait et enseigne ce qui arrive réellement après la mort. La vraie Église sait ce qui arrive après la mort, et elle enseigne vraiment ce qui arrive après la mort. Sur la planète, vous avez toutes sortes d'idées qui circulent concernant ce qui arrive après la mort. Vous avez, par exemple, la réincarnation, où un être se serait transféré dans un animal et dans une série d'animaux, pas ad vitam aeternam, mais très longtemps, avant d'atteindre un nirvana ou je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de théories comme ça qui circulent, qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu enseigne et ce que la vraie Église doit enseigner. Et la mort n'est pas non plus la fin de tout, comme certains pensent. Au contraire, c'est une étape vers autre chose, parce que Dieu a un plan qu'il accomplit de façon très précise, avec beaucoup d'amour. Et on n'a pas non plus, comme plusieurs églises du monde enseignent, une âme immortelle. Ça, c'est le vieux mensonge de Satan qui a dit à Adam et Ève, « Faites ce que vous voulez, vous ne mourrez pas. Vous avez une âme immortelle. Vous ne mourrez pas, vous avez une âme immortelle. » Le vieux mensonge a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et il continue de fonctionner. Tant et si bien que parfois, certaines personnes qui découvrent qu'on n'a pas une âme immortelle, ils sont éberlués de ça. Mais pourtant, c'est la réalité. Allez dans Jean 3, s'il vous plaît. Jean 3. Alors, on sait par la Bible que quand quelqu'un décède, la personne ne va pas au ciel ni en enfer. Ne va pas au ciel ni en enfer. C'est clair dans plusieurs versets de la Bible. J'en donne un ici, c'est le Christ qui parle. Jean 3, et regardez le verset 13, c'est le Christ qui parle. Il dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Il n'y a pas un être humain qui est monté au ciel. Il y a juste le Christ qui est retourné après être venu sur la terre. Alors, ça vient de l'autorité suprême sous Dieu qui déclare que personne n'y est allé au ciel. Donc, quand quelqu'un décède, il ne va pas au ciel. Il ne va pas non plus en enfer, parce que l'enfer est une invention humaine. À partir d'un auteur du Moyen Âge, Dante Alighieri, qui a écrit des scénarios là-dessus, et ces scénarios-là ont été pris par les églises du monde pour enseigner qu'il y a un enfer et faire peur aux gens et les faire marcher au pas comme on voulait qu'ils marchent. Et ils ont même créé entre les deux quelque chose qui n'est pas plus biblique que l'enfer, le purgatoire. Je me rappelle au purgatoire, quand on était petit, on nous enseignait que le purgatoire, ça, c'était quelqu'un qui n'était pas assez méchant pour aller dans le feu de l'enfer, mais pas assez bon pour aller tout de suite au ciel, là où il n'y a personne. Mais alors, il allait au purgatoire, et là, il restait là un bout de temps, et on pouvait prier pour lui, et surtout, on pouvait payer pour l'aider à monter, à avoir un billet pour monter au ciel. Alors, il y avait comme un commerce d'établi pour faire traverser les gens. Alors, ceux qui aimaient leur chair disparue et qui avaient des doutes sur leur caractère, qui disaient, bien, peut-être qu'il n'est pas au ciel tout de suite, alors il était porté à financer pour qu'il puisse finir le voyage de bonne façon. Mais c'est faux. Ce n'est pas biblique. L'enfer, le purgatoire et le fait d'aller au ciel à notre mort, ce n'est pas biblique. Certains pensent et enseignent que des parents décédés voient ou aident les vivants. On voit ça souvent, hein? Mais moi, je réponds pas à ça quand les gens disent ça, pas des gens qui viennent à l'église et auxquels je dois expliquer, mais lorsque je vais à une funéraille, par exemple, de quelqu'un de la famille ou tout ça, et que les gens ont cette impression-là, ils disent, bon, là, mon frère me voit du ciel. J'ai pas à dire ça, ils me posent pas de questions, j'ai pas à leur expliquer. Mais les gens pensent que les gens sont vivants encore et qu'ils les voient. Et vous vous rappelez de ça peut-être, quand c'est un petit enfant qui meurt, on dit, mais maintenant, c'est un petit ange. Au ciel. Les êtres humains ne sont jamais transformés en anges. Et l'enfant est mort, comme les autres sont morts, tout simplement. Alors, voyez-vous, ça ne va pas du tout avec ce qui est marqué dans la Bible. Et les gens vont plus loin, c'est triste. Les gens prient les morts, comme si les morts pouvaient faire quelque chose pour eux. Ils sont sincères, mais ils sont dans l'erreur, parce que Dieu ne leur a pas encore révélé. C'est par son Église que Dieu révèle ces erreurs qui sont enseignées et leur révèle la beauté de la vérité, la résurrection que Dieu va accorder à tous les êtres humains en son temps et lieu. Ecclésiaste chapitre 9, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 9. Après le livre des Proverbes. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 et 5. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Oui, on est encore vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, c'est des expressions fortes que la Bible utilise. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, comme on a vu dans la sermonette tantôt. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Il n'y a pas pour eux de salaire puisque leur mémoire est oubliée, et ainsi de suite. Allez au verset 10, même chapitre. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, donc ni action, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, quand une personne décède, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'œuvre. Donc, la personne qui est décédée ne peut pas intervenir ou ne peut pas répondre aux prières. Elle est en attente de la résurrection, tout simplement. Attente de résurrection à la vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et ça, c'est tellement encourageant pour les ministres de Dieu de pouvoir enseigner cet espoir-là qui concerne tous les êtres humains. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et regardez le verset 13 et 14. Paul dit ici, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis ou qui sont décédés, parce que la mort est comparée à un sommeil. » Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que dans l'Église, on a cette espérance que Dieu va ramener tout le monde à la vie. D'abord, ceux qui lui appartiennent maintenant, au moment du retour de Christ. Et plus tard, tous ceux qui ont existé comme on a vu tantôt dans la sermonnette. Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Voyez-vous, le vrai espoir des êtres humains, c'est le retour à la vie de tous ceux qui sont morts au cours de l'histoire. On pourra revoir nos parents, nos êtres chers. Alors, voyez-vous, c'est une des caractéristiques de la vraie Église, d'enseigner ce qui arrive vraiment au-delà de la mort. Qu'à la mort, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'œuvre, et que c'est l'attente de la résurrection selon le plan de Dieu dans les étapes que Dieu a prévues. Deuxième caractéristique. L'Église de Dieu, la vraie Église de Dieu, proclame le signe que Dieu a donné concernant ceux qui lui appartiennent. Il y a un signe très précis qui identifie ceux qui appartiennent à Dieu. Exode chapitre 31. Le trait que je vais vous donner, ce n'est pas le seul trait caractéristique de la vraie Église de Dieu, mais c'est un trait majeur. Et il faut, pour que l'Église de Dieu soit vraiment l'Église de Dieu, qu'elle ait l'ensemble des traits caractéristiques. Exode 31, versets 16 et 17. « Les enfants d'Israël observeront le sabbat, c'est Dieu qui parle, en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. » Et c'est pour ça que le sabbat est encore célébré de nos jours et qu'il le sera dans le monde à venir. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » C'est Dieu qui a établi ce jour-là pour être un signe de ceux qui lui appartiennent. Ceux qui observent maintenant le jour du sabbat possèdent un des signes qui lui appartiennent, comme de quoi ils lui appartiennent. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. » Tous les jours ne sont pas égaux. Dieu a déterminé ça. Il y a beaucoup de monde sur la planète qui observe le vendredi, les musulmans, entre autres. Ce n'est pas le jour de Dieu. Il y a beaucoup de monde sur la planète, en particulier l'ensemble des chrétiens, qui observent le dimanche. Ce n'est pas le jour que Dieu a établi. Dieu a établi le 7e jour. Dieu l'a décrété pour être le jour qui est un signe de l'alliance entre lui et son peuple. À ce moment-là, Israël physique, et aujourd'hui, la petite nation d'Israël spirituel, le petit troupeau que Dieu appelle. Acte 17, s'il vous plaît. Acte chapitre 17. Acte 17. Et d'ailleurs, on voit, je vous le donne en passant, pendant que vous cherchez l'autre verset, que Jésus-Christ a toujours observé le sabbat. C'est pas surprenant. C'est lui qui l'avait donné. C'est lui qui l'avait tonné de sa voix sur le mont Sinaï et qui l'avait écrit de son doigt sur les tables de pierre. Et c'est lui qui est venu et qui a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » C'est très clair. Acte 17, versets 1 à 3, on voit ici que les apôtres observaient le sabbat. Paul et Silas passèrent Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, et ainsi de suite. Alors, on voit que les apôtres observaient le sabbat. Donc, c'est un élément très important, une caractéristique de la vraie Église de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. À tel point, allez dans Ésaïe 66. Ésaïe 66. Le sabbat n'a jamais été aboli et ne sera jamais aboli. Ésaïe 66 et le verset 23, on voit ici ce qui va se passer dans le monde de demain lorsque Christ sera revenu. On nous dit « à chaque nouvelle lune » ou dans le texte original « d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Alors, dans le monde de demain, toute la terre apprendra les lois de Dieu et va progressivement se mettre à les observer. Imaginez le jour où sur toute la planète, le vendredi soir, au coucher du soleil, tout va s'arrêter, toutes les industries, les commerces, et ainsi de suite. Et ce sera un temps de silence, de paix, de repos formidable, et où il y aura des assemblées de Dieu partout, mais où les enfants de Dieu vont venir le célébrer, le remercier. C'est ce que ça dit ici. Toute chair, tous les êtres humains encore vivants dans le millénium vont venir adorer l'Éternel le jour du sabbat. Ésaïe 58, juste un peu avant, Ésaïe 58, 13 et 14. Ici, il explique qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire le jour du sabbat pour honorer Dieu. et vraiment être ses enfants. Verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, » voyez-vous, ce n'est pas le temps d'aller magasiner ou de peinturer le patio ou de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas un jour de travail, c'est un jour de repos. Un jour où on peut dormir plus, lire davantage, réfléchir, prendre un bon repas en famille, aller à la Sainte Convocation, qui fait partie du sabbat. C'est une ordonnance que Dieu donne. Et quand c'est possible physiquement et financièrement d'y aller, ou qu'on n'est pas malade, on y va. Sinon, on observe le sabbat chez nous, bien sûr. Mais quand on peut y aller, on y va. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, c'est pas le temps de faire du sport, c'est pas le temps de réparer des choses, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, mais vous, c'est pas le temps de parler des problèmes mécaniques qu'on a eus durant la semaine ou ces choses-là, c'est le temps de penser aux choses de Dieu, puis de se préparer aux choses qui viennent. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Il dit, si tu fais ça, c'est parce que tu mets ton plaisir en Dieu. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ceux qui le font maintenant sont en préparation pour servir sous le Christ dans le monde de demain, pour enseigner les nations, les guérir, les encourager, rebâtir une société complètement différente de celle qu'on vit maintenant. Deuxième caractéristique qu'on vient de voir, la vraie Église doit enseigner le sabbat et enseigner exactement comment on doit observer le sabbat. Mais ce n'est pas tout parce que, et ça m'amène à la troisième caractéristique, la vraie Église de Dieu doit aussi observer toutes les fêtes de Dieu. On les voit, on ne s'y reportera pas, mais on les voit dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23, Dieu donne la liste de ses fêtes. Il commence par le sabbat hebdomadaire et ensuite il donne les sept sabbats annuels qu'on doit observer. Toute la liste des fêtes, et ça n'a jamais changé. Le Christ les a observées, les apôtres les ont observées. Et la vraie Église de Dieu n'observe aucune des fêtes païennes du monde. On change quand on vient à l'Église, parce qu'avant, on célébrait ces fêtes-là. Mais aujourd'hui, on apprend que ce n'est pas les fêtes de Dieu, même c'est le contraire. C'est des fêtes qui viennent des religions païennes anciennes. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais ce sont des célébrations qui honorent les faux dieux, qui ne sont pas les fêtes de Dieu. Et c'est pour ça que ceux que Dieu appelle cessent d'observer le dimanche, cessent d'adorer le soleil. Sunday, le jour du soleil, je n'entrerai pas là-dedans. Mais on observe maintenant le sabbat de Dieu, le signe qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on cesse d'observer les Pâques. Vous savez, les Pâques, je me rappelle quand les gens allaient à l'église et là, les dames avaient des chapeaux neufs ou des robes spéciales ces journées-là parce que c'était les Pâques. Il y avait toujours une frénésie un peu autour de ça. C'était émotivement joli, mais ce n'était pas une fête de Dieu. Ça a été institué par les hommes pour célébrer, soi-disant, la résurrection du Christ qui serait arrivé un dimanche, alors que ce n'est pas arrivé un dimanche. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais le Christ n'a jamais mentionné qu'on devait célébrer sa résurrection, ni célébrer le dimanche. Par contre, ce qu'il nous a ordonné de célébrer, la Pâque, une fois par année, qui représente son sacrifice. Là, il y a un sens directement lié à son plan. On a appris aussi à ne plus célébrer Noël. On a appris à faire les choses autrement, parce que ce n'était pas une fête qui honorait Dieu, au contraire. Le Christ n'est pas né le 25 décembre. Par contre, dans la mythologie, le Dieu invincible, le soleil invincible, était de retour au solstice d'hiver, le 25 décembre, autour du 25 décembre. Alors ça, c'est la fausse religion païenne qui a continué, qui a été intégrée aux religions chrétiennes actuelles. Alors voyez-vous, quand Dieu nous appelle qu'on découvre ces choses-là, on est enseigné par la vraie Église que ce n'est pas une fête qui honore Dieu, la fête de Noël, au contraire. C'est un affront, dans le fond. Mais on apprend à observer ces vraies fêtes. On cesse d'observer Halloween, de célébrer Halloween, malgré que certains d'entre nous n'étaient pas forts sur la célébration d'Halloween. Mais maintenant, on réalise que c'est une fête en l'honneur des démons, parce qu'on s'amuse à faire couler le sang, à avoir des victimes, à jouer des tours, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses démoniaques. Et on habille les petits-enfants en sorcières et en choses abominables comme ça. Il n'y a rien de vrai selon Dieu là-dedans, il n'y a rien de chrétien. Alors, on change. Le Christ et les apôtres ont toujours observé les fêtes que Dieu a données. Allez dans Jean chapitre 7, par exemple. Jean chapitre 7. Alors, comme je vous dis, je vous donne des choses de base, mais il faut qu'on les revoie, ces choses-là, qu'on en soit absolument convaincus, et de plus en plus, même les anciens et les nouveaux, qu'ils puissent noter ces choses-là, les revoir, puis être fortifiés dans leur démarche. Où est la vraie Église? Où est l'Église qui enseigne ces choses-là, sans faire de compromis? Jean, chapitre 7, et regardez le verset 2. « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. » Verset 10. « Lorsque ses frères, en parlant des frères du Christ, furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. » Parce qu'on voulait déjà le mettre à mort à ce moment-là. Alors, il est monté à la fête des tabernacles, mais en secret. Et plus loin, on voit au verset 37 qui a observé la fête du dernier grand jour. Verset 37 du même chapitre, Jean 7. Le dernier grand jour, le dernier grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et ensuite, il parle de la vie éternelle qui sera accordée. Donc, ça, c'est le dernier des sept grands sabbats annuels qui représente le temps où Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu dans l'histoire du monde. Alors, les disciples les ont observés. Le Christ les a observés. Nous avons le privilège de les observer aujourd'hui. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose dans le plan de Dieu, les étapes du plan de Dieu. Les fêtes de Dieu représentent chacune des étapes. Ce n'est pas sans importance. C'est pour ça que l'Église insiste tant là-dessus, et c'est pour ça qu'on les observe, et qu'on se réunit ces jours-là de façon spéciale, et qu'on a cette journée-là, ces journées-là, des messages spéciaux, et que les ministres demandent en prière d'avoir une nourriture encore plus spéciale à donner aux enfants de Dieu pour être encouragés. Quatrième caractéristique, intéressant, l'Église de Dieu, ou la vraie Église, porte le nom de qui? Le nom de Dieu. La vraie Église porte le nom de Dieu, et c'est Dieu qui le mentionne lui-même dans sa Bible. Toutes les églises qui ne portent pas le nom de Dieu, sont-elles les églises de Dieu? Je soulève la question. L'église que le Christ a fondée, elle est appelée clairement dans la Bible à 12 reprises, Église de Dieu. C'est pas surprenant qu'on porte ce nom-là. C'est pas un hasard. Ça vient de la Bible. Allez dans Acte 20, verset 28. Regardez ce qui est mentionné ici. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Il s'adresse aux ministres ici. Il dit « Faites attention, vous les ministres, de bien servir le peuple de Dieu pour paître l'Église de Dieu. » Voyez-vous, l'Église de Dieu, ce n'est pas compliqué. Et si vous allez voir, vous pouvez noter dans 2 Corinthiens 1, le verset 1, Paul écrit à l'Église qui se trouvait à Corinthe et il dit « À l'Église de Dieu » qui est à Corinthe. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe. 2 Corinthiens 1, verset 1. Et moi, je vais aller pendant ce temps-là à 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Il y aurait beaucoup d'autres versets à ajouter, mais je vous en donne juste quelques-uns, parce que je vous fais une révision aujourd'hui de la base de ce que la vraie Église de Dieu doit être, de ce qu'elle doit enseigner. 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Regardez ce qui est mentionné ici. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, il parle ici de la qualification de ceux qui doivent être ordonnés dans l'Église, dans le ministère. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de quoi? De l'Église de Dieu. De l'Église de Dieu encore. Je vais aller plus loin. Verset 15 du même chapitre. Verset 15, c'est précisé encore. Ou commençons au verset 14. Paul écrit à Timothée ici, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » La maison de Dieu, l'Église de Dieu. Et regardez après, « Qui est l'Église du Dieu vivant. » Qui est l'Église du Dieu vivant. Et là, vous voyez d'où vient précisément le nom de l'Église du Dieu vivant. Elle a été tirée de ce contexte-là également. Et encore là, ça met le sceau de Dieu sur où est son troupeau, où est sa vraie Église. C'est des choses qui nous encouragent. Cinquième caractéristique. L'Église de Dieu, comme vous le savez, elle a une mission précise à accomplir. Et elle travaille de toutes ses forces à l'accomplir. La majeure partie du budget qui nous est alloué, qui nous est donné par Dieu à travers les dîmes et les offrandes des membres et des dons que certaines personnes envoient à l'occasion, la majeure partie de ces argents-là sont mis pour quoi? Pour annoncer l'Évangile, comme ça nous a été commandé. Je pense que c'est un point important à préciser. Matthieu 28, 18 à 20. Juste avant de retourner au ciel, le Christ a clarifié quelle était la mission de la vraie Église, de son Église qu'il avait fondée. Il dit, voici quel est le travail que vous allez devoir faire jusqu'à la fin. Matthieu 28, et commençons au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que sa petite Église a la responsabilité d'enseigner ceux que Dieu attire au Christ, toute la parole de Dieu, jusqu'à ce que le Christ revienne. Et c'est pour ça que vous trouvez dans Matthieu 24, verset 14, qu'il est écrit, le Christ dit, « Cette bonne nouvelle du gouvernement de Dieu à venir sur la terre, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, pas pour convertir les gens, ce n'est pas le moment, mais pour servir de témoignage au monde entier. Alors viendra la fin. » La fin de quoi? La fin de la société où nous vivons. Alors, voyez-vous, ça doit identifier la vraie Église. Cette vraie Église-là doit être partout dans le monde pour annoncer ce message-là. Vous avez plein d'organisations religieuses qui n'annoncent pas le retour de Christ et qui ne sont pas partout non plus et qui ne sont pas précis dans ce message comme nous devons l'être parce que c'est la mission qui nous a été confiée. Et en même temps, en annonçant ce principe-là, on doit prêcher deux choses principalement. On doit prêcher, un, le repentir, que les gens doivent changer pour obéir aux lois de Dieu. Dieu ne changera pas ses lois, il ne les a jamais changées. C'est nous qui devons changer. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un à connaître la vérité, c'est nous qui devons changer. Et ne pas suivre les faux enseignements de ceux qui disent « Ah, la loi de Dieu a été abolie. Maintenant, on est sous la nouvelle alliance. On n'a plus à s'occuper de ça. Donnez votre cœur à Jésus. Prononcez son nom, vous êtes sauvés. » Absolument pas, absolument pas. C'est pas pour rien que le Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y a de quoi à faire. Et c'est pas pour rien que le Christ a dit, pourquoi vous faites pas ce que je vous dis? Et il leur a dit à plusieurs occasions la même chose. Vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé de faire. On doit annoncer que les gens doivent changer. On ne doit pas annoncer aux gens, dire, venez chez nous, on veut avoir le plus de monde possible. On est content quand du monde vienne, mais il faut que ce soit des gens que Dieu appelle. Et on sait que ce ne sera pas un grand troupeau d'ici la fin. Mais on doit les aider ensuite en leur montrant qu'il faut qu'ils changent. Comme on nous a montré à nous, qui sommes venus il y a longtemps, qu'on doit changer encore, qu'on devait changer. On a changé beaucoup de choses, mais on doit encore continuer à s'améliorer. Donc, on doit se repentir. Alors, on prêche la repentance. Il y a des églises qui disent, « Venez comme vous êtes. Dieu vous aime comme vous êtes. » J'arrête. Dieu aime tout le monde, oui, mais pas comme on est. Parce qu'il sait que comme on est, on se fait mal et on fait mal aux autres. Quand on ne vit pas selon ses lois. Dieu nous aime, oui, mais Dieu nous aime assez pour nous dire « changez ». Il dit « je veux pas que le méchant meure, je veux qu'il change de voie et qu'il vive ». Il dit ça à plusieurs reprises dans sa parole. Alors, c'est pour ça que la mission qui a été donnée à l'Église, elle a ses deux volets principaux. De prêcher que les gens doivent changer et d'annoncer qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient, qui sera dirigé par le Christ et par ceux qui actuellement acceptent et veulent changer de plus en plus avec l'aide de Dieu. Seuls, ils ne sont pas capables. Moi non plus. Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Voyez-vous, il ne suffit pas de croire, mais il faut vraiment faire ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va entrer dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père, dans Matthieu 7. On ne peut pas changer ça. Et le Christ, comme j'ai mentionné, est venu en disant, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Les églises du monde, malheureusement, prêchent leur évangile, un évangile d'hommes, au sujet du Christ. Ils parlent beaucoup du Christ. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui en parlent beaucoup. qui disent la vérité. La Bible dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, puis en essayant de convaincre les gens de faire n'importe quoi sauf les commandements de Dieu. Oh, ils vont être d'accord du bout des lèvres avec l'ensemble des commandements, mais pas le sabbat, par exemple. Celui-là, surtout ce signe-là, le signe de Dieu, lui, il faut l'éviter. Ça a été absolument aboli, cela. Voyez-vous? Alors, non, on vit dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu, et l'ensemble des religions ne sont pas les religions de Dieu. Le Christ a fondé son Église. Et on voit que les églises du monde essaient de convertir les gens, alors que l'Église de Dieu n'essaie pas de convertir les gens. Absolument pas. J'ai déjà dû dire à quelqu'un qui était venu à l'église un peu puis qui s'était retiré après parce que, bon, la personne était inquiète, ne comprenait pas tout à fait. J'ai déjà dû dire à la personne, j'avais une information à lui demander, je vous appelle pour cette information-là, mais c'est la dernière fois que je vous téléphone. Si vous ne m'appelez pas pour avoir information ou de l'aide concernant le cheminement spirituel, moi, je ne vous rappellerai pas. Je n'ai pas le droit de faire ça. C'est pas moi qui appelle et c'est pas moi qui ai à convertir les gens. Prenez le temps de vérifier, de prouver les choses. Et quand vous aurez prouvé les choses suffisamment, on vous accueillera à l'église avec plaisir. Alors, voyez-vous la différence? Les églises du monde essaient de dire, venez chez nous, venez chez nous. On veut avoir le plus de monde possible. Et on n'annonce pas le retour de Christ, on n'annonce pas le gouvernement de Dieu sur la terre non plus. Et il y a même des groupes, des petits groupes issus de notre ancienne organisation. L'Église universelle de Dieu, qui, eux, se sont retirés à part, après l'implosion, et là disent, maintenant, on n'a plus annoncé l'Évangile dans le monde. Il faut préparer un peuple pour Dieu, préparer le troupeau. Mais non, le Christ a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage jusqu'à la fin. On ne peut pas arrêter en cours de route. Donc, la vraie Église de Dieu s'identifie par le fait qu'elle continue d'annoncer le message du retour du Christ et le message du repentir. Autre signe. L'Église de Dieu applique la forme de gouvernement de Dieu. L'Église de Dieu, et ça c'est important, parce que ça identifie Dieu lui-même, sa façon de faire, son caractère. L'Église de Dieu applique la bonne forme de gouvernement. C'est-à-dire, c'est un gouvernement théocratique. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui désigne les leaders ou les ministres. Ce n'est pas nous qui nous ordonnons ministres. Comme j'ai déjà dit à quelqu'un qui me demandait d'où vous venez, vous autres, l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, êtes-vous associé à d'autres églises dans le monde? Non, on n'a aucune association, mais d'où vous venez? Alors, la réponse la plus simple et la plus logique, je pense, que j'ai pu trouver à date, c'est de dire simplement, nous sommes les descendants de l'Église originale de Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous enseignons les mêmes choses que le Christ enseignait, que les disciples enseignaient. Nous célébrons les mêmes fêtes qu'eux ont célébrées. Et nous travaillons à développer le caractère de Dieu comme eux ont fait. Et je pense que ça donne la lignée historique. Mais le gouvernement de Dieu, je reviens à ça, c'est un gouvernement théocratique. C'est Dieu qui désigne les ministres et ce sont ces leaders-là qui ont la responsabilité d'en oindre ou d'en établir d'autres par la suite. Et ça, c'est le fil conducteur tout au long de l'histoire. Ça s'est transmis d'un à l'autre. Comme M. Armstrong avait ordonné M. Meredith et d'autres, bien sûr, et comme M. Meredith a ordonné d'autres ministres aussi, et comme M. Armstrong avait ordonné M. Appartient, comme M. Appartient m'a ordonné ministre dans le temps, et ainsi de suite, vous avez le fil conducteur là, depuis les apôtres originaux. Et nous enseignons la même chose, parce que nous voulons continuer d'être la vraie Église de Dieu. Rappelez-vous, Moïse, il ne s'est pas improvisé chef. Il a été désigné par Dieu. Dieu a un gouvernement théocratique. Ça vient d'en haut. Et Moïse a dû apprendre à mettre en application ce gouvernement-là. Allez dans Exode 18, s'il vous plaît. Exode 18. Moïse avait à gérer toute la nation, puis les problèmes allaient jusqu'à lui. Mais à un moment donné, les problèmes, il y en avait plein les bras, là. Et son beau-père lui a donné un très bon conseil. Exode 18, regardez le verset 13. « Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, donc recevoir les doléances, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. » Alors, il devait rencontrer tout le monde qui avait des conflits, des difficultés. Et regardez après ça le verset 21. Son beau-père lui dit, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. » Craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de mille, chef de cent, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, l'autorité gouvernementale vient d'en haut encore. Son beau-père lui a, de la part de Dieu, dit, désigne des hommes qui ont certaines caractéristiques, qui ont démontré qu'ils veulent faire les choses de bonne façon, désignés pour prendre charge. C'est exactement ce qui doit se passer dans l'Église de Dieu, et c'est toujours ce qui s'est passé dans l'Église de Dieu. Luc 10, s'il vous plaît. Luc, chapitre 10. Et écoutez, c'est le même gouvernement qu'il y aura dans le monde de demain. Le Père va toujours rester le gouverneur suprême de l'univers. Le Christ sera toujours en deuxième. Et ensuite, vous aurez le roi David qui sera sur les nations d'Israël, comme c'est marqué dans la Bible. Il va être ramené à la vie. Et ensuite, vous avez d'autres serviteurs qui seront là, les 12 apôtres, comme c'est marqué dans la Bible. Les 12 apôtres originaux seront en charge chacun d'une des 12 tribus d'Israël. Ça, c'est déjà déterminé. Ils ont mérité leur poste, si vous voulez. Ils se sont qualifiés. Dieu ne donne pas les postes de tous, mais on voit qu'ensuite, ça va s'établir en dessous. Donc, ce sera une structure gouvernementale, encore théocratique. L'autorité vient d'en haut. Luc 10 et le verset 1 et 2. Luc 10 et le verset 1 et 2. « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Encore là, c'est désigné par l'autorité. Ce n'est pas différent. Et vous pourrez aller voir dans Éphésiens 4, ça donne ici la structure gouvernementale encore. Éphésiens chapitre 4, c'est très clair. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et regardez ce que Paul dit aux membres de l'Église à Éphèse. Il dit, le Christ a donné les uns comme apôtres. Voyez-vous, c'est lui, le Christ, qui a désigné les apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme enseignants. Les autres comme évangélistes, il donne les différents postes dans l'Église. Les autres comme pasteurs, les docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, qui est son Église. Pour que l'Église soit préparée, soit formée, pour qu'on puisse servir dans le monde de demain. Alors, on retrouve dans l'Église cette même structure-là, même structure théocratique, qui va la chaîne d'autorité. Et dans ce sens-là, on est vraiment les descendants de l'Église originale de Jérusalem. Formidable! Septième caractéristique de l'Église. L'Église de Dieu a des ministres, je viens de mentionner, on voit comment ils sont nommés, ils sont désignés. Moi, je n'ai pas demandé pour être ministre, on m'a dit à un moment donné que j'allais l'être, et on m'a ordonné le lendemain matin. Je me rappelle, M. Appartien m'avait dit la veille, quand il m'a annoncé qu'il allait m'ordonner ministre, il dit, « M. Brochu, si vous avez à perdre connaissance, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite, parce que demain, à l'Assemblée, je vais vous ordonner comme ministre de Dieu. » Alors, je n'ai pas tombé à terre, mais j'ai été surpris. Et bon, là, je savais qu'il y avait une responsabilité qui s'en venait. Alors, voyez-vous, ça se passe la plupart du temps comme ça, parce que c'est désigné par ceux qui sont en autorité. C'est pour ça que j'ai toujours gardé un lien spécial avec M. Appartient aussi, et ceux d'entre vous qui l'avaient connu, un homme tellement spécial, puis un homme tellement dévoué qui a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'à l'âge de 95 ou 96 ans, lorsqu'il est décédé récemment. C'était toujours d'aider, de penser aux autres, un petit coup de téléphone de temps en temps, voir comment ça va, et puis malgré tout le travail qu'il avait à faire. Alors, c'est comme ça. Donc, les ministres, dans l'Église de Dieu, si vous avez remarqué, ne portent pas de costumes spéciaux. N'ont pas de tenue de cérémonie, ne portent pas des grandes robes noires, ni de chapeaux en forme de poisson. Vous avez déjà vu ces choses-là? Parce que ça, c'est comme les prêtres païens de l'Antiquité. Si vous faites des recherches un peu, les prêtres païens de l'Antiquité, les anciens babyloniens, avaient des vêtements très élaborés, des grandes tuniques, parfois c'était noir, et ils portaient un poisson sur la tête, à la bouche ouverte, comme les mythes qu'on voit dans certaines religions. Ça vient de là. Tout s'explique. Tout a un motif, vous savez. Alors, les grandes robes noires et les chapeaux en forme de poisson viennent des Babyloniens et qui adoraient un dieu du nom de Dagon, le dieu poisson. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez voir de quoi il s'agit. Et vous trouvez ça aussi dans une histoire qui est formidable. Moi, j'ai un livre à la maison écrit par Woodrow qui s'appelle Babylon Mystery Religion. Babylone, l'histoire de la religion babylonienne. Et là, on voit tous ces symboles-là qui étaient déjà là et que les religions du monde ont emprunté pour faire leur cérémonie maintenant dans le faste dans lequel ils le font. Alors donc, les ministres de Dieu n'ont pas de vêtements spéciaux. Après ça, une autre caractéristique. Allez dans Matthieu 10. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Là, ça peut vous permettre d'identifier la vraie Église de Dieu, puis en même temps de disqualifier de ce qui pourrait être une Église de Dieu, les Églises qui n'en sont pas. Matthieu 10, et regardez le verset 7. Matthieu 10 et le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alors, ça s'en vient. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et regardez après. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ça, c'est une caractéristique de la vraie Église. Si vous avez une Église qui vous charge quelque chose, pour de la littérature ou pour des services ou quoi que ce soit, est-ce que ça peut être l'Église de Dieu? Alors que le Christ dit, vous avez reçu ce qu'il y a de plus précieux, la vérité, vous l'avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement la même vérité. On n'a pas le droit de la vendre. Et comme M. Armstrong disait si bien, la vérité n'a pas de prix. Dans le sens, c'est tellement valable, mais en même temps, on ne peut pas la vendre. On ne peut pas vendre la vérité. L'Église de Dieu, si vous avez remarqué, et vous l'avez sûrement remarqué, ne charge aucun frais pour les DVD, les brochures, les revues, pour les mariages ou les cérémonies de funérailles, et ainsi de suite. On ne charge jamais un sou pour ça. Dès que vous voyez une organisation religieuse vendre ou faire payer, ce n'est pas l'Église de Dieu. C'est une autre caractéristique qui nous fait voir où sont les serviteurs de Dieu. C'est qui la vraie Église? Ce n'est pas des choses compliquées, mais il faut les regarder dans la Bible, puis c'est intéressant de les mettre tout ensemble. Ça nous donne, comment je dirais, une grille. Une grille pour identifier où est la vraie Église. Mettre toutes ces choses-là ensemble. Une autre caractéristique de l'Église. L'Église de Dieu enseigne uniquement et seulement la vérité biblique. Uniquement et seulement la vérité biblique. Toute la vérité biblique. Ce que nous ne savons pas, nous ne l'enseignons pas. Ce dont nous ne sommes pas certains, nous n'en faisons pas une doctrine. Nous le disons, tout simplement. Matthieu 28. Je reviens là-dessus parce que ça a une importance grande. Matthieu 28, on l'a lu tantôt, verset 19. C'est juste avant de retourner au ciel, quand le Christ a donné la mission précise à ses serviteurs, ce qu'il devait accomplir jusqu'au temps de la fin, jusqu'à son retour sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'on fait. On est partout sur la face de la terre. On est sur Internet, sur plusieurs réseaux sociaux. On fait des conférences du monde de demain pour nos abonnés. On publie plein de choses gratuitement. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et quand des gens viennent à l'Église, à ce moment-là, on travaille avec eux pour les aider à faire le chemin spirituellement, à comprendre les choses. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand ces personnes-là ont compris qu'elles devaient changer, qu'elles regrettent d'avoir transgressé les lois de Dieu et d'avoir causé ainsi la mort du Christ, elles veulent être pardonnées de ça. Elles veulent que toute leur vie passée soit effacée. Alors, elles demandent le baptême, et à ce moment-là, en tant que ministre, on doit les préparer. Ça ne se fait pas automatiquement, ni rapidement. Il faut s'assurer que les gens sont prêts. Mais quand les gens sont prêts, on les passe par les eaux du baptême. Et c'est à ce moment-là précis que Dieu efface toutes les fautes passées de leur vie par le sang du Christ. C'est le sang du Christ qui nous justifie, c'est-à-dire qui nous enlève toutes les injustices, qui nous rend justes. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut donner son Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour qu'on soit engendrés en tant que ses enfants en préparation de naître dans son royaume au moment du retour de Christ, d'être transformés en êtres spirituels. C'est ce que le Christ est en train d'expliquer ici. Il dit, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces gens-là, que Dieu appelle maintenant, qui se repentent, qui sont venus ou qui viennent à l'Église et qui font le chemin pour aller vers le baptême, à ce moment-là, il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On ne peut rien délaisser. On ne peut pas dire « ça, c'est pas important » ou « ça, ce n'est plus en vigueur ». On s'appuie sur la Bible avec certitude et on demande à Dieu de nous aider là-dedans d'être fidèle et d'être juste. Il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Formidable! Ça, c'est la mission et c'est le travail que nous avons à faire. L'Église enseigne seulement la vérité biblique. Vous ne trouverez pas des choses bizarres qui ne sont pas dans la Bible. On s'appuie sur ce que la Bible mentionne. Et la base, on la trouve, allez dans Matthieu 19, on est dans Matthieu 28, reculez un peu à Matthieu chapitre 19. Ici, vous allez avoir la base exactement de nos enseignements. Verset 16, commençons au verset 16. Et voici, un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Alors, c'est clair que ce jeune homme-là n'avait pas la vie éternelle. Il n'avait pas une âme immortelle. Il savait. Et c'est pour ça qu'il dit, « Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'immortalité? » Alors, ça montre un des points de la vraie Église de Dieu dont j'ai parlé au tout début. La vraie Église de Dieu annonce en quoi consiste la vie éternelle. Et elle explique aux gens que nous ne l'avons pas maintenant, que ça doit nous être accordé plus tard. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, comme on voit dans Romains chapitre 6. Alors, il savait qu'il n'y avait pas la vie éternelle, mais il dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc, voyez-vous, il ne s'agit pas juste de dire, je crois en Dieu. Il y a quelque chose à faire. Il lui pose la question. Il lui répondit, c'est le Christ qui répond, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et regardez, il donne la réponse. Si tu veux entrer dans la vie, sous-entendu la vie éternelle, observe les commandements. Ça ne peut pas être compliqué. C'est simple, simple. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ça ne veut pas dire que l'observance des commandements nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, elle nous vient du Christ par sa vie à lui. Par contre, on a la responsabilité, une fois qu'on sait que nos transgressions des lois de Dieu ont causé sa mort et que ses enseignements consistent à nous montrer à vivre différemment que par la transgression des lois de Dieu, qu'on doit les observer, à ce moment-là, on a à cœur de les observer pour devenir comme lui. Et à ce moment-là, nous qualifier pour entrer dans le royaume de Dieu et naître de nouveau, c'est-à-dire pour recevoir la vie éternelle, qui est un don gratuit qu'on ne peut pas mériter. Parce qu'il y a des fausses religions qui disent, « Ah, mais vous ne pouvez pas mériter votre salut. » Mais non, on ne peut pas mériter notre salut, ça nous est donné. La vie éternelle, ça nous est donné. Sauf qu'on a la responsabilité de faire ce que Dieu nous dit de faire pour nous qualifier et qu'ensuite, lui puisse nous donner la vie éternelle. Tout ça se tient. Il dit, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Comprenez-vous pourquoi la vraie Église doit enseigner tous les commandements de Dieu et toutes les fêtes de Dieu sans distinction, enseigner toute la vérité biblique, expliquer aux gens de se repentir, de changer, et même parfois on doit le faire sur une base individuelle en tant que ministre, lorsqu'on voit que quelqu'un a un problème particulier avec un point dans sa vie qu'il n'a pas vu. En tant que ministre, on doit avec douceur puis compréhension, parce que nous sommes aussi des êtres humains faillibles, on doit aider la personne à comprendre qu'elle doit changer telle chose. Si tel comportement, par exemple, crée des problèmes dans l'Église à d'autres membres, on doit s'asseoir avec la personne et lui expliquer que tel comportement ou telle façon de faire dérange, non seulement dérange, mais crée des problèmes et qu'elle doit changer de ce côté-là. C'est absolument normal parce qu'on prépare un peuple pour Dieu qui a la même culture, la même façon de penser que lui et que cette personne-là, comme toutes les autres, doit apprendre à vivre selon les lois de Dieu, selon ce que Dieu nous a enseigné. Matthieu 4, verset 4. Reculez un peu. Matthieu, chapitre 4 et le verset 4. Très clair. C'est encore là une désignation de notre mandat. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprenez-vous qu'on ne peut pas enlever des pages de la Bible ou enlever des fêtes ou enlever le sabbat ou enlever des responsabilités qu'on a de changer. Et ça, ça aide à savoir où est la vraie Église. Parce que la vraie Église a le courage et la responsabilité de dire aux gens qu'ils ont à changer et ce qu'ils ont et qu'ils ont à changer. Comme moi, j'ai à changer encore, parce qu'on n'est pas encore rendu. Et ça va devoir se poursuivre jusqu'au moment du retour du Christ. La loi spirituelle de Dieu n'a jamais été abolie et elle ne sera jamais abolie. Vous savez pourquoi? Parce que ça représente la personnalité de Dieu, son caractère. Dieu est un Dieu de sollicitude, d'amour envers les autres. Il veut que les gens soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils ne se fassent pas mal, mais qu'ils se fassent du bien. C'est pour ça qu'il dit, ne mentez pas, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère, et ainsi de suite. C'est l'inverse qu'on doit faire, respecter les gens, leur donner dans la mesure du possible, au lieu de prendre, donner, c'est la loi d'apprendre à donner, comme M. Appartient et M. Armstrong nous expliquaient si bien. Matthieu, chapitre 5, juste un peu plus loin. Et c'est pour ça que la société de demain sera si heureuse, paisible, abondante, parce que tout le monde va apprendre à se soucier des autres, pas pour en tirer profit, mais pour les aider et pour amener leur contribution à cette société-là. Volontairement, comme vous faites volontairement la volonté de Dieu aujourd'hui en vous déplaçant pour venir à la Sainte Convocation pour apprendre les voies de Dieu. Dans le monde à venir, l'ensemble de l'humanité apprendra ces choses-là et vont avoir à cœur de vouloir le pratiquer. C'est pour ça que tout va changer. Dieu dit qu'il va changer le cœur des hommes. Et on voit dans Ézéchiel qui dit à ce moment-là, je vais changer leur cœur et je vais faire en sorte qu'ils soient capables d'observer mes lois. Sans son aide, on ne peut pas. Et Dieu donne son aide actuellement à ceux qui l'appellent et à ceux qui se mettent en marche pour obéir à ses lois. Ces lois qui n'ont jamais changé. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Le Christ est très clair. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, la moindre petite chose, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, il y a des responsabilités à ceux qui disent que c'est plus en vigueur, là, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et je ne voudrais pas être dans la situation de ceux qui le font en sachant qu'ils le font malhonnêtement. Certains le font peut-être sincèrement, mais d'autres le font peut-être en connaissance de cause jusqu'à un certain point. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il dit, « Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Ça ne veut pas dire qu'il va être là et qu'il va être appelé petit. Ça veut peut-être aussi dire qu'on parlera de lui comme quelqu'un qui était très petit, qui savait, mais qui ne faisait pas. On en parlera peut-être au passé, comme quelqu'un qui n'existe plus, mais qui était là et qui était petit. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est clair, hein? Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dieu ne badine pas avec ces choses-là. Quand on sait, il faut faire. Et ceux qui, en connaissance de cause, annoncent des choses erronées pour leur profit ou pour quelque autre motif mauvais que ce soit, auront à en rendre compte. C'est sérieux. Dieu ne badine pas avec ces choses-là. Un dixième point, un dernier point que je vous donne. L'Église de Dieu enseigne que l'on doit développer les fruits de l'Esprit. On ne dit pas aux gens, venez chez nous, changez pas, restez comme vous êtes. On va faire des belles activités sociales et puis on va être bien ensemble. On va parler de Jésus, mais on ne changera pas grand-chose. Non, il faut changer, non seulement cesser de pécher, mais il faut développer des choses positives que Dieu nous demande de développer. Allez dans Galates. Galates chapitre 5. Vous savez probablement à quoi je veux en venir. Galates chapitre 5. Dieu met son Saint-Esprit à la disposition de ceux qui l'appellent pour qu'on avance. Et il met son Esprit dans ceux qui se font baptiser pour être capable d'aller plus loin encore. Mais à tous ces gens-là, les appelés et ceux qui sont élus et ceux qui sont baptisés comme ceux qui s'en vont vers le baptême, Dieu nous demande de développer certains traits de caractère particuliers, ce qu'il appelle les fruits de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, Autrement dit, ce que ça doit produire dans ma vie et dans votre vie, l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. L'amour envers les autres. D'abord, l'amour envers Dieu et ensuite l'amour envers notre prochain. De lui vouloir du bien et non pas du mal. Honorer notre Père, honorer Dieu. Le premier, c'est l'amour. Ensuite, la joie. Et on doit développer ça. Et Paul nous explique ailleurs que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est encourageant soit l'objet de vos pensées. Ne perdez pas votre temps à penser des choses négatives qui vous amènent à être déprimé. Il dit la joie, la paix. Amenez la paix, procurez-les la paix. Lorsqu'il y a des différends avec d'autres personnes autour, dans la mesure du possible, soyez la personne qui aide à faire des ponts et à effacer les conflits. Ne pas mettre de l'huile sur le feu. La patience. La patience, c'est un gros travail pour chacun, et certains d'entre nous encore plus, et je m'inclus parmi ceux-là. La patience, c'est quelque chose qu'on voudrait avoir tout de suite. Là. On voudrait avoir la patience maintenant, mais ce n'est pas possible. Ça se développe avec le temps. On n'a pas le choix. La patience. Oui, c'est le caractère de Dieu, dans le fond, qui est en train de décrire. La bonté, avoir de la bonté envers les autres. Se soucier d'eux autres, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, ce par quoi ils passent. Prendre le temps de les écouter. Pas toujours leur raconter ce qu'on veut leur raconter ou leur faire part de ce que nous, on pense, mais voir comment ils vivent les choses et ainsi de suite. La bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien des autres. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Les membres convertis de l'Église sont caractérisés par leur souci des autres, la sollicitude envers les autres, par l'amour fraternel dans la foi, pour s'entraider, pour prier les uns pour les autres, pour s'encourager. C'est pour ça qu'on donne dans les annonces à chaque assemblée de sabbat, quand il y a des gens qui ont besoin de prière, on donne les noms et les situations. Et je sais que vous priez pour ces gens-là. Et ça fait une différence. Dieu répond aux prières. On l'a vu cette semaine à différentes occasions. Et on va le voir encore. Et je pense qu'on va le voir encore plus les situations vont devenir difficiles autour dans le monde et plus il y aura de problèmes. Dieu va intervenir davantage pour ceux qui sont proches de lui. Jean 13. Jean chapitre 13, s'il vous plaît. Jean, chapitre 13, on va commencer à lire au verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi il dit c'est un commandement nouveau? C'est pas nouveau. C'était marqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'on devait s'aimer les uns les autres. Mais la réponse, elle est tout juste après. Et regardez, vous allez voir la précision ici. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est là la grosse différence là, dans le Nouveau Testament. Il dit, vous maintenant dans l'Église de Dieu, qui avez l'Esprit de Dieu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Soyez prêts à tout donner pour les autres, à vous préoccuper vraiment des autres, à faire partie de cette équipe que je prépare pour aider l'humanité lorsque je suis revenu. C'est ça qu'il dit ici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. Verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. On n'en sort pas. On revient exactement à la même chose. On sait qu'on aime Dieu et qu'on aime ses enfants lorsqu'on pratique ses commandements. Oui, parce que ses commandements, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes aussi, comme le Christ a fait. Et il se précise ensuite au verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » On revient encore à ça. Et ça identifie encore la vraie Église de Dieu. Alors, on a vu quelques caractéristiques, des traits distinctifs de la vraie Église de Dieu. Si je résume, elle enseigne selon la Bible ce qui arrive vraiment après la mort. Elle proclame le sabbat, qui n'a jamais changé, qui est un signe de ceux qui appartiennent à Dieu. Elle observe, cette Église-là, les fêtes de Dieu, et elle enseigne qu'on doit les observer. Cette Église-là, la vraie Église de Dieu, porte le nom de Dieu. De plus, elle accomplit la mission précise que le Christ lui a confiée. Aussi, elle pratique le gouvernement établi par Dieu. Ses ministres ne portent pas d'accoutrements étranges. Elle ne vend rien. La vraie Église ne vend rien. La vraie Église enseigne toute la vérité biblique. Et la vraie Église travaille à porter les fruits du Saint-Esprit qui est le caractère de Dieu. Alors, voyez-vous, je termine là-dessus. C'est important d'être conscient de ces traits caractéristiques-là. Ça nous aide à nous affermir dans la foi ou à avancer. Poursuivez la recherche. Ce n'est pas les seuls traits caractéristiques. Vous pourriez en trouver d'autres. Vous pourriez vous faire une petite liste, même en faisant certaines autres études, quand vous trouvez un point qui identifie la vraie Église, qui est différent de ce que d'autres Églises font, notez-les. Ça va encore renforcer votre conviction où est la vraie Église, l'Église que Dieu a fondée. Il y a plusieurs autres. Les ministres de Dieu, heureusement, sont mariés. Il y a des églises qui défendent aux ministres de se marier. Et vous savez d'où ça vient? Allez à 1 Timothée, chapitre 3. Je vais vous montrer. 1 Timothée, chapitre 4, pardon. 1 Timothée, chapitre 4. Je suis heureux d'être un homme marié avec des enfants. Et à ce moment-là, c'est logique aussi, parce qu'un homme marié peut comprendre les autres couples mariés davantage. Et en plus, s'il a eu la chance d'avoir des enfants, il a eu à les élever, à passer par les différents problèmes que ça représente, et il peut aider les autres davantage. C'est absolument normal. Alors, si on va maintenant à 1 Timothée, chapitre 4, et on va commencer à lire au verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, là où nous sommes, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Doctrines de démons, OK? « Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Regardez, verset 3 au début. « Ils prescrivent de ne pas se marier. » Ils prescrivent de ne pas se marier. Vœux de chasteté. Et on voit ce que ça donne dans les communautés religieuses. On voit tous les drames de pédophilie, on voit tous les drames d'abus sexuels, de violence, cachés même par les autorités religieuses et tout ça. C'est épouvantable. C'est un fruit de ces doctrines de démons qui ont été appliquées. Comprenez-vous pourquoi? C'est un autre signe aussi de la vraie Église de Dieu, qu'elle enseigne que ses ministres doivent être mariés, et doivent avoir cette expérience de vie. Deuxièmement, j'en rajoute un autre, ça me passe par l'esprit, c'est pas le moindre non plus, la vraie Église de Dieu, elle n'a pas d'objet de culte. Elle n'a pas d'objet de culte. Elle n'a pas de statut. Les gens ne se promènent pas avec des crucifix dans le cou ou avec des symboles comme ça. C'est le deuxième commandement qui défend d'avoir des représentations quelconques de la divinité et des choses spirituelles. C'est très clair. Mais ça a été mis de côté. On l'a interprété autrement et tout ça, mais le commandement est très clair. Alors, la vraie Église de Dieu n'a pas d'objet de culte. La vraie Église de Dieu, j'en donne un dernier, observe les lois alimentaire que Dieu a donné pour notre santé dans la Bible. Alors, il y en a plein d'autres comme ça. Vous pourriez continuer la liste, mais tout ça mis ensemble, ça permet d'identifier où est la vraie Église que le Christ a fondée. Tous ces traits-là ensemble, c'est ce qui distingue la vraie Église de Dieu. Tout ce que la vraie Église de Dieu est, tout ce qu'elle fait, elle s'est basée sur les Écritures. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette façon-là aujourd'hui. Ce sont des valeurs stables et des valeurs certaines. Dernier passage, Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Regardez la promesse de Dieu ici. À ceux qui ont le privilège et la responsabilité d'être appelés maintenant et d'identifier la vraie Église, de s'assurer qu'ils sont à la bonne place et de travailler à développer le caractère de Dieu et à soutenir l'œuvre que Dieu accomplit maintenant sur la terre. Regardez ce que Dieu dit, Apocalypse 3, verset 10 à 13. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Donc, l'Église doit persévérer dans toute la vérité. « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Dieu dit, « Je vous protégerai à l'heure de la grande détresse, à l'heure du test qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Celui qui vaincra, voyez-vous, on a des choses à faire. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il fera partie de l'équipe sous le Christ et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Formidable.